Une semaine d'actualité, Daniel Grillon.
Bonjour, en ce samedi 22 août, les bruits du monde, joies et peines s'y mélangent pour créer cette symphonie terrestre. On y trouve même cette semaine des tambours. Chers auditeurs d'RFI, tour à tour ambassadeurs, écrivains, hommes de télévision, Patrick Imos nous accompagne dans ce voyage à travers l'actualité de la planète. Bonjour Patrick Imos.
Bonjour.
Les différentes facettes de votre parcours sont utiles pour aborder cette actualité, nous présentant plusieurs photos marquantes. Au Gabon, Ali Bongo dit donner au pays toute sa part d'héritage. Au Burundi, le président Nkurunziza prête serment malgré le refus de la communauté internationale de le voir exercer un troisième mandat. En Grèce, Alexis Tsipras démissionne. En Turquie, nouvelle élection aussi, le 1er novembre. En Syrie, l'homme ayant consacré sa vie au sauvetage de la cité antique de Palmyre y est assassiné par le groupe État islamique. Plus légèrement, au Togo, trop d'obèses, remarquent les médecins. Enfin, la disparition au Sénégal d'un trésor national, le maître tambour Doudou Diaye Rose. Il a fait 16 degrés 6 en moyenne sur la planète au mois de juillet. La très sérieuse agence américaine océanique et atmosphérique vous livre sa conclusion. C'est le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre depuis le début des mesures en 1880. Autre information, jamais les océans n'ont été aussi chauds. Et si cela continue ainsi, l'année 2015 sera la plus chaude depuis plus d'un siècle. Le coupable, vous l'avez deviné, l'homme et ses activités, l'agence confirme, en particulier pour la consommation d'énergie fossile, nos chauffages, nos usines, nos voitures, etc. Inutile de vous dire l'inquiétude de François Hollande, hôte dans 3 mois de la conférence mondiale sur le réchauffement climatique.
Si nous avons un accord sur le climat, nous devons le rechercher. Mais quoi qu'il arrive, même si nous n'en avions pas, ce qui serait une catastrophe. L'enjeu, c'est d'être capable de proposer à beaucoup de pays qui vont s'engager dans la transition énergétique des solutions. Car beaucoup de pays émergents ou des pays vulnérables vont demander, à juste raison, que leur transition énergétique puisse être accompagnée financièrement. C'est l'affaire du fonds vert, c'est l'affaire des fonds privés comme publics, des banques de développement qui doivent se mobiliser pour permettre que nous puissions dégager 100 milliards de dollars par an à compter de 2020 et sans doute avant. Donc il y aura des moyens financiers.
Pour éclairer, l'une des clés pour accoucher à Paris du premier accord universel contre le réchauffement climatique, c'est bien la façon dont comptent verser les pays riches aux pays en voie de développement, c'est 100 milliards tous les ans à partir de 2020 dont parlait le président Patrick Imos. Vous croyez-vous à un accord? Les pays en voie de développement, est-ce qu'ils ont raison en disant « mais on veut freiner notre développement ». Vous, vous l'avez connu avant?
Oui, je crois que c'est difficile de leur refuser le développement et toutes les formes de gaspillage d'énergie que nous avons pratiquées. Hein. L'empêche que on est là vraiment dans un monde où toute solution ou plutôt tout problème pose des problèmes aux autres et donc d'une façon ou d'une autre, il faudra qu'on y arrive. J'ai l'impression que le président Hollande a quand même pris la mesure de l'importance de cette rencontre et que il va faire avancer les choses d'une façon ou d'une autre. Je crois que ce que vous annonciez tout à l'heure, par exemple, que l'année la plus chaude depuis 1850, ce sera 2015, c'est ce genre de nouvelles qui font quand même un tout petit peu bouger les esprits. Reste que aux États-Unis, par exemple, un très grand nombre de gens sont encore en train d'être dans le négationnisme climatique, hein, actionné par tous les lobbies que nous savons. D'autres pays font comme si c'était important, mais en même temps, ils ne prennent pas les mesures qu'il faut.
Dans la série Mots de la planète, allons donc en Chine, à Tianjin. Il y a pile 10 jours, les explosions pulvérisaient des stocks de produits chimiques, dont du cyanure. Les autorités chinoises le disent, la teneur en cyanure dans les eaux, près du site industriel, sont 277 fois supérieures au seuil de tolérance. Zone totalement bouclée, les habitants rencontrés par notre envoyé spécial Heike Schmidt n'ayant le droit qu'à un petit aller-retour pour récupérer quelques affaires.
J'ai juste ramassé quelques affaires de valeur et l'argent liquide. Même pas nos vêtements car ils sont couverts d'éclats de verre et de poussière dont je ne sais pas à quel point c'est dangereux.
Nous ne savons pas quels risques nous prenons ici. Nous ne sommes pas des scientifiques. Les autorités devraient tester sérieusement la pollution par ici. J'espère que le gouvernement nous traitera bien. Nous sommes des gens lambda, des employés de bureau. J'ai acheté cet appartement 1 million de yuan foutu en l'air.
Un mot des scientifiques dont parle ce citoyen chinois. Il avait d'ailleurs en bandoulière un masque à gaz au cas où. En les lisant, ces scientifiques, on ne peut pas prédire l'ampleur de la pollution sur place. Quant au cyanure, il peut être digéré par la terre avant d'atteindre, par exemple, les nappes phréatiques. Rien n'est sûr, en fait. Il faudra compter sur la transparence chinoise pour être informé. Officiellement, l'eau de Tianjin restait potable cette semaine. L'humeur des habitants, beaucoup moins.
Mes chers compatriotes, je vous laisse seul juge, la conscience tranquille. Je suis fier de la bataille que mon gouvernement et moi-même avons menée. Nous avons atteint la limite, c'est vrai, mais nous avons fait de la question grecque une question internationale.
Ainsi donc, Alexis Tsipras aura démissionné après des mois de lutte pour maintenir à flot l'économie de son pays, dont 3 mois de contrôle des capitaux. Il ne renonce pas, il veut retrouver une majorité au sein de son parti Syriza. Il y a trop de défections. Les voix lui manquent à l'Assemblée pour aller plus loin, pour vendre par exemple d'autres aéroports ou ports à des investisseurs. Tsipras va donc aller devant les électeurs. Ce n'est pas un référendum pour ou contre les sacrifices demandés par les créanciers du pays. Ça, c'est déjà fait. Cette fois, élection législative dès le mois prochain probablement, pour décrocher donc une nouvelle majorité et continuer le travail. Patrick Imos, un Premier ministre, fut-il très à gauche, ne peut pas faire autrement. De nouveaux sacrifices demandés au peuple pour rebâtir une économie. Il faut refaire des élections. Il y a une limite à l'exercice démocratique.
Je crois qu'il a vraiment demandé à ce peuple, mais arrivant après un grand nombre de gouvernements totalement irresponsables. Donc il a assumé tout ce passé épouvantable avec tout ce que nous savons sur la fiscalité grecque épargnant tous les riches. En gros, c'est ça le problème. Mais tout ça, évidemment, avec chaque fois la bénédiction de l'Union européenne. De l'Union européenne directement, ou bien des banques que nous savons, les banques américaines ou françaises ou autres, qui ne cessaient de prêter et de feindre de croire que les comptes que leur présentaient étaient des comptes justes, alors que c'était des comptes dont tout le monde savait qu'ils étaient faux. Donc il y a une sorte de complicité épouvantable du public et du privé pour continuer à prêter de l'argent à la Grèce, continuer à faire qu'on puisse lui vendre, par exemple, des armes. Hein. C'est une des tragédies, quand même, cette Grèce qui est menacée par personne et qui a un des plus forts budgets militaires de l'Europe, tout ça parce que ça permet à l'industrie allemande de l'armement, à l'industrie française de l'armement de continuer à vendre du matériel. Hein. Donc je veux dire, notre responsabilité à nous qui ne sommes pas grecs est immense. Et on a mis le Premier ministre et quelques premiers ministres que ce soit, d'ailleurs, dans une situation pratiquement intenable, avec une population immensément appauvrie et une Union européenne qui est censée être en train de demander de nouveaux sacrifices. Des sacrifices qui paraissent en plus des sacrifices absurdes, parce que toute une série même de prix Nobel ont expliqué longuement que avec une déflation de ce genre, on était dans la spirale de la pauvreté et que ça n'allait nullement améliorer les choses, y compris pour rembourser. Donc on est dans la folie des hommes et la folie aussi du monde économique dans lequel on vit, le monde capitaliste super avancé et totalement financier, qui n'est plus du tout à produire de la richesse, mais qui est à produire en fait des profits pour les banques. Enfin, je crois que malheureusement la version marxiste la plus primaire, qui nous faisait rire il y a 10 ou 20 ans, elle redevient une version tout à fait explicative de ce que nous vivons.
Partons pour la Syrie, partons pour Palmyre, la cité antique. Paul Khalife nous appelait d'urgence cette semaine.
L'histoire pré-islamique doit être effacée. Les sites archéologiques et les objets incitant à l'idolâtrie doivent être détruits et les personnes qui en font la promotion doivent être punies. Accusé par un tribunal religieux de tous ces maux, Khaled al-Assad, l'ancien directeur des antiquités de la cité de Palmyre, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, a été décapité devant des dizaines de personnes. Une pancarte l'identifiant comme un partisan du régime pour avoir représenté la Syrie à des conférences à l'étranger a été accrochée à sa dépouille. Comble du cynisme, son corps a été pendu à une colonne antique de Palmyre dont il avait lui-même supervisé la restauration pendant de longues années. Considéré comme l'un des plus éminents experts du monde antique, Khaled al-Assad était à la retraite depuis près de 15 ans. Il avait refusé de quitter Palmyre après la prise de la ville par les djihadistes en mai dernier. Il pensait sans doute que son âge avancé le protégerait des représailles des extrémistes. Mais pour servir sa vision ultra-rigoriste de l'islam, le groupe État islamique n'a pas hésité à assassiner en public cet érudit de 82 ans.
Patrick Imos, Palmyre, la beauté absolue soumise à l'horreur terroriste. Quand le groupe État islamique a conquis la cité, le monde entier s'est indigné. Mais depuis,
on ne peut rien faire dans cette région et on ne peut pas faire plus de choses pour défendre quelques pierres qui sont effectivement parmi les plus étonnantes réalisations qui nous soient parvenues de l'Antiquité. Hein. Le président syrien, avec beaucoup de cynisme, a laissé partir ses troupes en se disant que le fait que Daesh soit installé là allait détourner en quelque sorte l'attention de tout ce qu'il faisait pour continuer à bombarder de façon effroyable ce qu'on patriote à travers son pays. Donc j'ai l'impression que certes il y a une impuissance, une indifférence aussi peut-être, mais il y a aussi le principal acteur, c'est quand même avec Daesh, c'est Assad, et il est d'un cynisme absolu, parvenu évidemment au terme de son parcours, il le devine.
De Syrie proviennent une grande partie des migrants, d'Irak aussi bien sûr, d'Afghanistan, enfin tous ces pays ravagés par divers phénomènes. Vous étiez ambassadeur en Suède. Vous êtes frappé de voir les partis d'extrême droite dans les pays nordiques progresser là-bas devant le flux des migrants.
Oui, c'est une chose en Suède. Je veux dire, moi, je suis rentré il y a 10 ans, hein, mais à l'époque, je veux dire, il n'y avait pas du tout de parti, populiste. Et il y avait une sorte d'impossibilité d'exprimer des sentiments racistes. Hein. Mais en vérité, l'origine de ça vient beaucoup plus, je pense, des migrations à l'intérieur de l'Union européenne. Et les Suédois, malheureusement, si j'ose dire, avaient été particulièrement ouverts là-dessus. Ils ont été vraiment tout à fait partisans d'ouvrir le marché du travail. Et aujourd'hui, bon, ils voient bien que le marché du travail suédois, tellement bien régulé, etc., est totalement dérégulé par les gens qui viennent des Pays-Baltes, par les gens qui viennent de l'Europe centrale, ou bien qui viennent des frontières, en tout cas du Kosovo, etc. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas les Syriens, c'est pas les Palestiniens, etc., qui sont vraiment le problème, je pense, qui explique la montée de l'extrême droite. D'autant que, à l'évidence, une bonne partie de ces migrants qui viennent de Syrie, de Palestine ou autres, sont des gens qui sont très bien formés. Donc, c'est des gens qui sont utilisables et qui s'intègrent parfaitement bien. En Suède, par exemple, pour prendre ce pays que je connais un peu, la Suède a accueilli énormément de Chiliens et d'Argentins dans l'époque terrible. Et aujourd'hui, une partie notable des intellectuels suédois sont d'origine chilienne ou argentine. Puis ensuite, ils ont accueilli un grand nombre de Palestiniens, d'Arabes en général d'ailleurs. Et il y a aujourd'hui, par exemple, l'un des plus grands écrivains suédois dont tout le monde dit qu'il est celui qui parle le plus beau suédois, c'est un garçon qui a 35 ans, qui s'appelle Rémy Sty, qui vient de Tunisie. Hein. De la même façon que la plus grande cinéaste de la jeune génération, elle est d'origine iranienne. Hein. Donc, je veux dire, malheureusement, ce ne sont pas des antidotes suffisants par rapport à des gens qui trafiquent sans vergogne des sentiments xénophobes qui existent dans toutes les populations du monde.
Entre les migrants et l'Europe, il y a souvent pour ces migrants la Turquie. Là-bas aussi, élection à venir. Le Premier ministre n'arrive pas à former le gouvernement. Élection le 1er novembre. Le président Erdogan espère y voir l'AKP récupérer sa majorité absolue, si utile à son projet de présidentialisation du régime politique. Alors, l'actualité turque porte plus que jamais un nom, les Kurdes. Les bombardements de l'armée turque se poursuivent sur les camps de rebelles kurdes. Jérôme Bastion, notre correspondant, s'est rendu dans la zone kurde, à l'est du pays, précisément à Varto.
Sous les rotors des hélicoptères qui poursuivent leurs opérations dans les montagnes alentours, un groupe de femmes vient honorer la mémoire de la jeune rebelle Ekin Van, tuée, déshabillée et exhibée nue par la police la semaine dernière à Varto. Pour la jeune députée du HDP, Pena Heidenlar, ce n'est pas un crime horrible comme un autre, c'est un acte de guerre, mais les Kurdes ne veulent plus se faire entraîner dans cette guerre.
Le chemin qui mène à une paix des braves passe par une guerre des braves. Et cette guerre, nous l'avons livrée pendant 40 ans en payant un lourd prix humain. Maintenant, le temps de la paix est venu. Et nul ne peut contester que la paix est ce dont nous avons le plus besoin pour que le sang s'arrête de couler.
L'avocat Tarık Güneş de l'Association des droits de l'homme vient de rédiger un rapport d'enquête sur les morts de la semaine dernière à Varto. Il confirme leur caractère bien particulier.
Jamais depuis 5 ou 6 ans, on avait connu une telle sensation sur ce genre de cas. La raison, c'est de nous empêcher de connaître les circonstances de ces décès. La forme de ces exécutions de ces derniers jours est non seulement nouvelle, mais aussi maquillée comme jamais auparavant. Et nous pensons que c'est un message politique très clair.
Mais cette volonté manifeste de terroriser, au-delà de l'échec des pourparlers de paix, a un effet très direct sur les Kurdes les plus jeunes.
Depuis qu'il y a ces bombardements qui ont commencé à cause du président turc, les gens ils sont plus motivés à participer à la guérilla. Ils veulent se venger en quelque sorte, ils veulent pas se laisser faire.
Voilà pourquoi il faut absolument remettre en route rapidement les négociations de paix pour éviter que cet interminable conflit kurde ne reparte dans un nouveau cycle de représailles sans fin.
Opération policière aussi à Istanbul contre l'extrême gauche après la fusillade de jeudi sous les fenêtres même du Premier ministre.
RFI.
Aux États-Unis, en cette période où les tensions entre la communauté noire et les policiers sont pour le moins fortes, une voix s'éteint. Julian Bond, pas James, Julian. Dans les années 60, il était l'un de ces grands leaders noirs luttant pour l'égalité, pour les droits civiques des noirs américains. Il a encadré, formé, dirigé ces groupes d'étudiants de couleur allant s'asseoir sur les bancs réservés aux blancs ou se soulager dans leurs toilettes interdites. Certains seront lynchés pour cela. Julian Bond, sa voix passionnée jusqu'au bout de son chemin personnel et son dernier message.
Nous devrions être heureux que d'autres personnes, y compris gays et lesbiennes, aient imité notre mouvement pour les droits civiques. Quand des gens nous imitent pour obtenir leurs droits, nous devrions être les premiers à leur dire « Vous nous avez aidés, que pouvons-nous faire pour vous ?»
Can I help you? Hommage partout aux États-Unis pour Julian Bond. Barack Obama, quelque part, suit le tracé de Julian Bond en prenant une décision très remarquée à la Maison-Blanche, Jean-Louis Pourté.
Rafi Friedman Gerspan, une noire de 28 ans, a pris hier ses fonctions de directrice du recrutement pour l'exécutif américain. Cette embauche d'une transsexuelle, a déclaré Valérie Jarrett, conseillère du président Obama, souligne l'engagement pris par l'administration démocrate pour lutter contre les discriminations dans le travail. Obama a adopté une politique très progressiste en matière des droits de la communauté LGBT. Lorsque la Cour suprême a légalisé le mariage gay, il a ordonné que le drapeau arc-en-ciel des gays soit déployé à l'entrée de la Maison-Blanche. En avril, il avait fait ouvrir dans le bâtiment annexe les premières toilettes unisexes ouvertes aux trans. Dans plusieurs États, dont la Floride et le Texas, une loi de surveillance des toilettes oblige les transsexuels à n'utiliser que celles de leur sexe de naissance.
Patrick Imoz, pour terminer cette première partie d'une semaine d'actualité, cette question, certes, on pourrait mettre longtemps pour répondre, mais est-ce que Barack Obama, prix Nobel de la paix à peine élu, aura pour vous finalement mérité ce Nobel de la paix ?
Enfin, si on reprenait la liste des Nobel de la paix, on aurait effectivement quelques soucis à se faire. Hein. Souvent, les Nobel ont été décernés trop tôt, à la suite, par exemple, des accords israélo-palestiniens. Bon, on se souvient de ça. Hein. Donc, le prix Nobel de la paix, c'est plus souvent trompé que les gens qui distribuent le prix Nobel de physique ou de littérature. Hein. Mais dans le cas d'Obama, effectivement, à peine arrivé, tout de suite considéré qu'il avait joué un rôle décisif dans la paix du monde, c'était absurde. Bref, je crois que c'était une décision à pas de clair. Hein.
Dans un instant, suite de cette semaine d'actualité, direction notamment le continent africain avec toujours bien sûr Patrick Imoz.
Une semaine d'actualité, Daniel Grillon.
Toujours bien sûr avec Patrick Imoz, ancien ambassadeur, écrivain, homme de télévision. s'appelle Maxence. Il a 6 ans. Il est tout sourire et tient une balle de tennis dans sa main droite. À regarder de plus près, cette main est bariolée, orange, jaune, bleu, et puis cette inscription, Supermax. Il a choisi les mots et les couleurs. Maxence, né sans main droite, est le premier à recevoir en France une prothèse imprimée en 3D. C'est là qu'est la révolution. Une imprimante en 3D a fourni à Maxence sa main toute neuve, si j'ose dire. Pas aussi précise qu'une prothèse très compliquée, très chère, mais celle-ci coûte seulement 50 euros. Imaginez les applications partout dans le monde. Brice Blondel de l'association Handicap International est ravi.
En termes de coût et en termes de processus de fabrication, c'est quelque chose qui est beaucoup plus léger que ce qui existe actuellement. Pour nous, ça ouvre des perspectives très très intéressantes. On travaille dans des contextes dans lesquels l'argent et les ressources techniques disponibles sont très limitées. Et pour des pays pauvres ou pour des situations d'urgence humanitaire, des contextes instables, ça nous permettrait effectivement de répondre à une demande qui est difficile de satisfaire actuellement. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir aider des enfants, notamment des personnes pour lesquelles avoir perdu un membre supérieur va entraîner des difficultés sociales. Leur environnement va les regarder différemment, elles-mêmes vont se regarder différemment. Et le fait de pouvoir remplacer ce membre, même simplement par quelque chose qui ressemble au membre, sans que ça en ait toutes les fonctions, va être très important.
Patrick Imos, je pose la question cette fois à l'écrivain. Fournir une prothèse à des victimes amputées d'une main un peu partout dans le monde grâce à une imprimante, certes 3D, c'est mieux qu'un roman, non ?
Alors, c'est beaucoup mieux qu'un roman. Beaucoup de choses sont beaucoup mieux que les romans, d'ailleurs. Mais cette nouvelle-là, effectivement, elle est tout à fait impressionnante et un peu surréaliste hein, pour les gens de notre époque. Peut-être dans 25 ans, ça paraîtra d'une banalité extrême. Mais je crois que l'impression en 3D est quand même en train de révolutionner 1000 choses. Hein, depuis les pièces détachées, très compliquées, d'avions perdus dans le désert, jusqu'à des mains ou des pieds. Donc, voilà, la technique est quand même quelque chose de fabuleusement intriguant et excitant.
Pour donner deux exemples, une néerlandaise a reçu il y a 4 ans une mâchoire artificielle fabriquée par une imprimante en 3D. Avec la même technique, on signale aux États-Unis des oreilles artificielles qui sont arrivées comme ça. Partons pour l'Afrique. Avec là-bas la découverte en Tanzanie, au nord, dans les gorges d'Olduvai, d'un os de petit doigt. C'est le plus ancien os de main de l'espèce humaine dans sa version dite moderne. Notre ancêtre, son possesseur, vivait il y a près de 2 millions d'années. Les chercheurs sont fascinés, vont étudier à fond ce petit doigt. Certains font déjà cette remarque, cette phalange situe bien en Afrique l'origine des vrais humains modernes. Observons certains de ces humains cette semaine sur le continent africain. Par exemple, au Gabon. Voici le président Ali Bongo Ondimba.
J'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous des héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage qui me revient seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. J'annonce également, au nom des enfants d'Omar Bongo Ondimba, que nous avons décidé de céder à l'État, à titre gracieux, la propriété située Camp de Gaulle sur la voie express dans le premier arrondissement de Libreville. Elle sera destinée à créer une université au profit de la jeunesse gabonaise. De même, nous avons décidé de céder à l'État, pour le franc symbolique, deux propriétés en France ayant appartenu à Omar Bongo Ondimba.
Le cadeau à la nation du président Ali Bongo Ondimba, suivi par notre correspondant Yves-Laurent Goma en ce jour de 55e anniversaire de l'indépendance. L'opposition gabonaise demande la transparence dans l'opération et attend de voir le don se concrétiser. L'association Transparency International rappelle l'enquête dite des biens mal acquis. Deux juges français décortiquent toujours l'énorme patrimoine immobilier acquis par le défunt président Omar Bongo. Petit rappel, 6 ans après son décès, le partage entre les 53 héritiers n'est pas réglé. Les actifs identifiés se monteraient à plusieurs centaines de millions d'euros. Quittons le Gabon, traversons le Congo et la RDC pour atterrir à Bujumbura pour la deuxième intervention présidentielle surprise.
Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'Unité Nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation, à assurer l'unité nationale et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociale.
Pierre Nkurunziza prête serment. Cérémonie discrètement organisée pour sa sécurité. Cette semaine encore, assassinat de 4 membres du parti présidentiel. Serment officiel annoncé donc au dernier moment et de toute façon boudé par la communauté internationale dans la grande salle du Parlement réunie. Aucun chef d'État étranger bien sûr. Plusieurs ambassadeurs africains, mais aussi, remarquez, de Chine et de Russie. Des diplomates européens et américains sont là, pas les ambassadeurs, hein, c'est subtil, de rang plus modeste pour ne pas cautionner le troisième mandat condamné par leur pays. Ils auront pu raconter à leur chancellerie ces quelques applaudissements une fois le serment prêté par le président Nkurunziza. En fait d'applaudissements, il y avait plutôt un match. Écoutez bien, nous sommes à la toute fin du discours. Pierre Nkurunziza vient-il avec sa prestation de serment de mettre totalement fin à 10 ans de paix? L'opposition, la société civile, l'Église catholique voient, vous le savez, en ce troisième mandat une violation de la Constitution. Le Conseil national pour les respects des accords d'Arusha considère, lui, que le Burundi n'a tout simplement plus de président. Les violences s'enchaînent. Samedi dernier, le général Jean Bikomagu rentre chez lui, ancien chef d'état-major. Sous les yeux de sa fille, ses assassins passent à l'action. Il est été. Tutsi. Aujourd'hui au pouvoir à Bujumbura, les Hutus. Alors, Sylvestre Tibantuganya, ancien président du pays dans les années 90, y voit le pire des scénarios au micro de Laure Broulard.
Je m'appelle à la responsabilité des uns et des autres, et notamment au niveau des leaders politiques, pour qu'ils prennent toutes les mesures qui s'imposent pour mettre très rapidement fin à cet engrenage qui commence. Nous avions alerté depuis le début, quand commençaient les manifestations contre le troisième mandat, pour que personne ne fasse verser cette crise dans des aspects d'ordre ethnique. Mais vous savez, si on n'agit pas vite, les risques sont énormément grands. Et nous sommes dans un pays et dans une région qui sont profondément blessés sur cette matière. Et la responsabilité exige que des mesures rapides soient prises pour que cette perspective n'arrive pas.
Patrick Imos, je m'adresse à l'ancien ambassadeur. La communauté internationale regarde, bien sûr, observe, condamne. C'est vraiment difficile, et là, c'est pas une spécialité, bien évidemment, du continent africain. Mais d'avoir une voix qui porte, c'est une chose. D'agir concrètement, sans ingérence, même en Afrique, c'est très compliqué.
C'est évidemment de plus en plus compliqué. En plus, dans ces deux malheureux pays de l'Afrique centrale, les interventions de la France particulièrement se sont révélées quand même consternantes. Le point de départ d'horreur épouvantable qui se serait peut-être passé de toute façon, mais il s'est trouvé que ça a quand même été l'étincelle qui a fait démarrer ces massacres qui ont coûté la vie à 1 million de gens. Enfin, on s'aperçoit que, je veux dire, si on prend simplement le cas de la Libye, où on est intervenu dans les conditions que tout le monde sait, et où on a créé une sorte de désordre généralisé, qui maintenant, et c'est en quelque sorte, un juste châtiment, aboutit au fait que toute l'Afrique noire peut accéder directement à la Méditerranée à travers des passeurs, etc., et se déverser sur l'Europe. Enfin, bon, tout ça n'incite pas à intervenir, effectivement, non pas par lâcheté, mais simplement parce que, sans doute, c'est quand même le meilleur service qu'on peut faire à des peuples, même quand ils sont terrorisés par de sanglants dictateurs, de ne pas rajouter encore du désordre.
L'Union africaine craint la contagion de la crise burundaise à l'ensemble de la région. Au nord du Burundi, son voisin, le Rwanda, vous en parliez. Apprenez cette semaine le non-lieu requis à Paris par la justice française en faveur du père Wenceslas Munyeshyaka. Après 20 ans d'enquête, il était, peut-être bientôt, le premier à être visé pour génocide par une plainte en France, Christine Muraté.
C'est le dossier le plus ancien et l'un des plus emblématiques des affaires sur le génocide rwandais présenté devant la justice française. Accusé de complicité de génocide dans sa paroisse de la Sainte Famille à Kigali par le TPIR, soupçonné de complicité d'attaque de miliciens interahamwés contre des populations tutsis, le père Wenceslas Munyeshyaka pourrait pourtant bénéficier d'un non-lieu en France, à la grande satisfaction de son avocat, maître Jean-Yves Dupeux.
Ce sont des réquisitions qui, dans les explications, peuvent avoir un côté politique. Mais il n'en reste pas moins que c'est une bonne justice qui est appliquée. Il n'y a pas de charge et il n'est pas légitime de renvoyer Venceslas devant la cour d'assises de Paris.
Le parquet considère que les charges ne sont pas suffisantes, ce qui provoque la stupéfaction des parties civiles qui ne comptent pas en rester là. Maître Michel Laval, l'avocat du collectif des parties civiles pour le Rwanda.
On va reprendre le dossier de manière très méthodique. Nous considérons que nous avons dans le dossier un bon nombre d'éléments qui vont nous permettre de nous inscrire en contradiction totale avec les constatations du procureur. Et donc, on va le faire savoir dans le délai que la loi nous prescrit.
La défense et les parties civiles ont un mois pour faire connaître leurs arguments. Au final, c'est le juge instructeur qui décidera du sort judiciaire du père Venceslas.
Au juge donc de décider, effectivement. Eux seuls ont le pouvoir de suivre l'avis du parquet et éviter au prêtre la cour d'assises pour crimes contre l'humanité, ou au contraire, de le faire juger. Le TPI pour le Rwanda, le tribunal pénal international, l'avait qualifié de bourreau, l'accusant d'avoir participé à des réunions planifiant des massacres et même exécuté lui-même 3 jeunes Tutsis. Le TPI s'était dessaisi au profit de la justice française. Le père Venceslas Munyeshyaka vit en France. Il est curé d'une paroisse dans le nord-ouest du pays. La France refuse d'extrader des génocidaires présumés, puisque le génocide n'existait pas en 1994 dans le code pénal du Rwanda. Patrick Imos Hutu, Tutsi, paix fragile, conflit pouvant redémarrer. Les exemples d'opposition entre plusieurs ethnies ne manquent pas sur la planète. C'est toujours extrêmement compliqué, là.
Oui, enfin, ethnie, ou bien, d'ailleurs, simplement, des partis politiques qui ont été engagés dans des conflits épouvantables. Comment arriver à réconcilier tout ça sans oublier, sans passer une sorte d'éponge sur des actes abominables, hein, et, je veux dire, on le voit dans un pays que j'aime beaucoup, j'étais en poste, qui est la Tunisie, qui a une sorte de courage insensé, et qui a réussi quand même, en gros, à s'affranchir de décennies d'autocratie parfaite. Bon, là, il y a un projet de loi qui a été déposé par le Premier ministre de réconciliation nationale, un peu sur le modèle de ce qui s'était passé en Afrique du Sud. Et on voit bien aussi ce qu'il peut y avoir de très difficile à admettre pour une partie au moins de l'opposition, c'est-à-dire passer une éponge sur toutes les malversations, toutes les interrogatoires tragiques, etc., au nom de la préparation d'une unité nationale retrouvée. Hein. Donc, comment on sort de ce type de situation? Je crois que personne n'a réellement de solution, et qu'en vérité, on voit bien que c'est après 2 ou 3 générations qui ont réussi à maintenir une vague.
Tout le monde n'a pas son Mandela.
Tout le monde n'a pas son Mandela.
Les tambours que vous connaissez maintenant un peu plus. D'un certain Sénégalais disparu cette semaine. Le Mali, dans le nord, les forces onusiennes de la MINUSMA tentent de protéger des combats les populations civiles. Les affrontements reprennent dans la région de Kidal. Une zone de sécurité doit maintenant sécuriser la ville. Les ex-rebelles de la CMA contre d'autres groupes armés favorables au gouvernement malien. Tous ayant pourtant signé les accords de paix il y a à peine 2 mois. L'économie régionale est touchée. Tels ces guides touristiques sans touristes, rencontrés sur place par Serge Daniel.
Dans la ville de Mopti, encore appelée la Venise du Mali, on ne voit quasiment plus de guides touristiques en activité. Il n'y a plus de touristes à cause de la crise. Dur, dur. Yaya Tongara dirige une association de guides touristiques. Il raconte son quotidien.
On n'a rien du tout. Le payer les loyers, ça fait des problèmes. Payer l'escolisation des enfants, c'est des problèmes. Payer à manger, c'est des problèmes.
Ici, dans la région, plus d'un millier de personnes dont le travail était d'accompagner les touristes et de leur montrer les merveilles du centre du Mali commencent à changer de métier pour survivre. Djibril Kassogué est devenu, par exemple, paysan.
Là, on commence à cultiver le mil au village, le mil, les haricots, les céréales.
L'ancien guide touristique Alioune Diallo raconte de son côté.
Ça fait à peu près depuis 2012 qu'on n'a pas de travail. Moi, effectivement, j'évolue en faisant des petits commerces.
Mais c'est moins rentable que son ancien métier.
Changer de métier pour faire vivre sa famille. Les contrastes du si vaste continent africain. Au Botswana, 15 chefs d'État de l'Afrique australe tentent de trouver des solutions à la pénurie alimentaire. Pluie, sécheresse, chaleur, tout est au rouge. Les récoltes sont touchées. 27 millions de personnes touchées, 10%, par des problèmes alimentaires. Principalement au Botswana, Malawi, Zimbabwe et la Namibie. Les contrastes du continent, beaucoup plus haut au Togo. Les médecins, eux, constatent étonnés, 6% des Togolais sont obèses. Peter Dogbe est allé enquêter à Lomé.
La nuit tombe sur le boulevard circulaire, taxis, motos et véhicules se disputent la route pendant que sur la chaussée, à quelques pas de l'immeuble Fiatta, l'animation bat son plein autour du restaurant improvisé. Quatre braves femmes pilent le foufou. Devant la revendeuse assise, 5 à 7 bassines de différentes sauces à servir, les clients choisissent.
Bon, la dessine, la mémé dessine, asie dessine, découpe dessine, allez. La mémé,
les gars. Sous le hangar, derrière la maîtresse des lieux, ce client a fini de prendre son repas.
Foufou avec découpe dessine. Peut-être demain je vais manger foufou encore avec bon, la dessine.
Une habitude de tous les soirs pour beaucoup qui peut avoir pour conséquence l'obésité. Pour le docteur Raymond Costa, si Barué, diabétologue à la clinique qui porte son nom, l'obésité reste influencée par des facteurs culturels. L'obésité est due au stress, à la sédentarité et à ce que le docteur Barué appelle paradoxalement une amélioration de l'alimentation. Docteur Raymond Kossi-Barué.
On mange de plus en plus sucré. On mange principalement à base de féculents. Le foufou à base de ligname, les plats à base de maïs, le riz prend beaucoup de place actuellement dans notre alimentation. Tous ces aliments consommés sans une activité physique en conséquence a tendance à faire prendre du poids.
À Lomé, depuis l'apparition des taximotos, on marche peu. Les émigrants sont là et partout, sans aucun effort, ils vous y amènent.
Soyons complets, cette semaine aussi, des chercheurs américains confirment nous sommes inégaux. C'est dans nos gènes, pour l'obésité aussi. À l'université du Massachusetts, ils ajoutent cette nouveauté dans la connaissance du processus. Le gène de l'obésité n'est pas dans le cerveau, mais dans la peau. Eh oui, en gros, pour la moitié d'entre nous, notre peau décide. Soit nous stockons, soit nous consommons les aliments avalés. On ne choisit pas, on ne comprend pas plus, certes, c'est très scientifique. Mais c'est tout à fait sérieux. Patrick Imos, la société moderne et l'inaction, c'est deux rails qui vont dans la même direction.
L'inaction, je ne sais pas si on est inactif, plus inactif qu'avant où les bureaucrates étaient légion. Il y a moins de bureaucrates peut-être aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 25 ou 30 ans, où il y avait moins d'obèses. Donc, je veux dire, il y a des tas de paramètres qui interviennent. Moi, ce qui me fascine toujours, c'est de voir tous les jours pratiquement une université américaine, puis le lendemain une université australienne couplée à une université chinoise, qui détermine que l'obésité, ça vient de ça et de ça, de façon tout à fait définitive. Et donc on ne sait absolument plus ce qui a une cause dans ce qui nous arrive, mais plus gravement encore, si j'ose dire, sur le cancer ou autre. Je trouve que c'est absolument tragique de voir à quel point se succèdent les nouvelles totalement contradictoires et chaque fois avec des sortes de garanties scientifiques qui paraissent absolument inaltérables. Bon, donc, et Internet évidemment renforce immensément ce processus, un problème de fiabilité des sources qui est un problème maintenant gravissime, hein, presque autant que l'obésité, hein, même plus encore que l'obésité. L'obésité de l'information est à mon avis un problème plus grand encore que l'obésité des hommes.
Jean-Marie Le Pen n'a plus son couvert au Front National. Le parti a exclu son fondateur. Ses déclarations sur la Shoah devenaient insupportables pour sa fille Marine à la tête du mouvement.
Ce qui est arrivé est très clair. C'était une mascarade, un guet-apens et un simulacre. Parce qu'on attendait en fait la décision de Marine Le Pen. Elle commandait de loin au téléphone le peloton d'exécution, mais elle ne voulait pas en faire partie parce que ça fait vilain, c'est sale, de tuer son papa. Alors elle n'a pas tué papa directement, mais elle l'a fait tuer par des sbires.
Jean-Marie Le Pen sur RTL. Il dit vouloir aller encore en justice contre le Front National et invite ses partisans à ne surtout pas démissionner, car de toute façon, il l'annonce, il veut pas, à 87 ans, fonder un autre parti politique. Il ajoute, en vain donc, « Je suis le FN, je suis chez moi au FN ». Sa fille Marine en aura décidé autrement. Ah, les histoires de famille. Famille politique ou vraiment familiale. Écoutez ceci.
Mon grand-père ne voulait pas que j'exerce ce métier. Il a lutté pour que j'arrête. Il vient avec sa canne pour me frapper.
Ainsi parlait une star sénégalaise, Doudou Diaye Rose, le maître tambour, classé par l'UNESCO, trésor humain vivant.
Mais on dirait qu'il y avait quelque chose de mystique. Si toutefois que j'entends le son, je suis obligé de suivre le vent pour aller sur le lieu. Pour être tambourmajor, il faut connaître le secret de la percussion. Comment on se communiquait à l'époque, comment expliquer le rythme de la nature, le rythme des animaux, parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone, ni radio, ni télévision. On se communiquait avec le tambour.
Doudou Diaye Rose s'en est allé. Le Sénégal le pleure, Sébastien Gédor.
Doudou Ndiaye Rose avait traversé l'histoire de son pays, le Sénégal. Né dans l'actuel Médina de Dakar, quand la ville était encore une commune française, sa carrière prend véritablement son envol le jour de l'indépendance en 1960, quand il défile avec une centaine de tambourinaires devant Léopold Sédar Senghor. Doudou Ndiaye Rose deviendra plus tard chef tambour-major des ballets nationaux du Sénégal. Maître du sabar, percussion des plus traditionnelles, Doudou Ndiaye Rose était aussi l'homme de toutes les aventures musicales. Invité aux cérémonies du bicentenaire de la Révolution française en 1989, il défile sur les Champs-Élysées en interprétant la Marseillaise à sa façon. Il enregistre ensuite sur le label de Peter Gabriel et se produit avec le barde breton Alan Stivell. Doudou Ndiaye Rose, enfin, c'était l'homme qui aimait les femmes. De son vrai nom Mamadou Ndiaye, il avait pris le surnom de Rose, qui était en fait le prénom de sa mère. Il dirigera même un temps un groupe entièrement féminin, les Rosettes, uniquement composées de femmes de sa famille.
Vous savez maintenant la légitimité de notre accompagnement musical de cette partie africaine d'une semaine d'actualité pour vous, chers auditeurs, avec ces formidables tambours de Doudou Diaye Rose, le talent, le Sénégal reconnu dans le monde entier. Patrick Imos, terminons en culture. Vous êtes écrivain et, je crois qu'on peut le dire, vous adorez pour cela le continent africain.
Oui, enfin, je reviens d'une librairie où j'ai été il y a deux jours. Bon, j'ai été frappé de voir à quel point, effectivement, les livres qui venaient de sortir, qui m'intéressaient, venaient d'Afrique. Alors, particulièrement de l'Algérie. Enfin, c'est le paradoxe de ce pays qui a tant de problèmes et en même temps tant de potentialités gigantesques, hein. C'est que plusieurs des plus grands écrivains francophones, enfin, qui écrivent en français, sont algériens. Alors, il y a certains qu'on connaît bien, comme Yasmine Kadra, par exemple, qui est un best-seller un peu partout dans le monde. Mais il y en a un autre que j'adore, qui est Anouar Bedmalek, qui est aussi traduit dans 40 langues. Enfin, qui est vraiment un écrivain qui a une sorte de force, de violence, qui n'a rien à voir avec les petites passions germano-pratines qui, quand même, ennuient tout le monde. Et je vois bien au niveau des traductions, moi, je me suis beaucoup occupé de traductions du français dans des langues étrangères. Je veux dire, ces œuvres-là d'Ivoiriens, d'Algériens, de Marocains, marchent beaucoup mieux que beaucoup d'œuvres enfantées sur les berges de la Seine. Donc, je ne saurais dire à quel point il faut effectivement lire ces livres qui parlent du monde, qui ne parlent plus du tout depuis très longtemps. La littérature algérienne ne parle plus des guerres de libération et tout ça, vrai sujet, grand sujet, mais elle parle du monde entier, hein. Il y a un livre que j'ai envie de conseiller parce que je l'ai même relu et qui me paraît absolument formidable, qui est le livre de Kamel Daoud, un journaliste d'Oran, d'un courage incroyable dans ses éditoriaux, etc., de l'Écho d'Oran, mais qui a écrit ce livre qui s'appelle Meursault contre-enquête et qui est une sorte de deuxième volet par rapport à l'étranger. Vous savez, dans le livre de Camus, donc, on tue un arabe, on ne sait rien de plus, hein, c'est le point de départ. Donc le héros, entre guillemets, tue un arabe. Et donc l'idée de Daoud, ça a été d'essayer d'inventer qui était cet arabe, puisqu'on n'en parle pas. Et donc c'est le frère de ce type qui a maintenant 80 ans, et qui va essayer d'expliquer pourquoi son frère a été tué, à quoi ça rime tout ça, etc. C'est un livre tout à fait formidable, qui est à la fois une aventure très forte, les deux frères, la vieille maman, etc. Et en même temps, qui est un contrepoint tout à fait insensé de l'étranger. Donc, ce livre aurait dû avoir le Goncourt l'année dernière, et en fait, a eu le Goncourt du premier livre il y a quelques mois. Superbe livre.
Je ne sais pas s'il est traduit dans beaucoup de langues, et donc si on peut l'acheter un peu partout.
Il sera forcément traduit dans beaucoup de langues, parce que c'est un grand livre, et que les traductions en général quand même suivent les livres qui ont une portée universelle. Celle-là en a une, d'autant que L'Étranger a été traduit dans toutes les langues. Donc à mon avis, Meursault, contre-enquête de Daoud va être traduit dans toutes les langues du monde, y compris en afghan.
Merci Patrick Imos de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'actualité de la semaine. Merci à Ludivine Amado, efficace réalisatrice de cette semaine d'actualité. À samedi prochain, chers auditeurs des RFI.